je vais contredire un peu ce que vient de dire Chouchou d'abord. Moi, je dirais plutôt que sur le terrain social, enfin, de moins dans la manière dont je vais le définir, toutes les décisions sont quasiment prises par l'État central. Et que, en fait, il me semble, peut-être je me trompe, hein, mais que les collectivités territoriales et locales n'ont pas beaucoup d'incidence sur ces décisions, sauf peut-être dans les régions qui ont eu des statuts spécifiques, peut-être en Corse et plus particulièrement en Nouvelle-Calédonie, d'après ce que je peux en savoir. À titre d'exemple, je prendrais l'exemple des salariés, des travailleurs en général, et tout ce qui les concerne, c'est-à-dire les conditions de travail, bien entendu, et les relations de travail, où à ce niveau-là, toutes les décisions sont prises à Paris, je pense que ça, c'est assez indiscutable. De la même façon, tout ce qui touche au concret, au quotidien des gens, au quotidien de la population, c'est-à-dire, je prendrai plus particulièrement l'exemple des services publics, donc mon voisin m'a facilité la tâche puisqu'il a parlé de la santé, qui est un service public. Le problème des transports, qui a été déjà abordé tout à l'heure, on peut constater, je crois bien, que que rien n'est décidé ici, en fait, que tout est décidé ailleurs, à des niveaux en tout cas qui nous dépassent, et que la tendance actuelle, ce qui a bien mentionné mon voisin toujours, est à la centralisation, à la recentralisation. C'est-à-dire quand on regroupe les services publics qui existaient, ceux qui existaient par exemple sur le Pays Basque Nord, notamment sur Bayonne, sont regroupés sur Pau, ça c'est une grosse tendance. Si ce n'est pas sur la région, comme ça a été mentionné. Voilà, donc ça c'est un constat. Donc moi le problème que je pose c'est celui de la maîtrise de nos outils socio-économiques, du cadre de vie, des conditions de travail, de la protection sociale, de la maîtrise de tout ça sur les gens, sur la population qui vivent sur un territoire donné, c'est-à-dire en l'occurrence le nôtre, le Pays Basque Nord. Pour moi, il s'agit bien effectivement d'une question qui pose la question du cadre de décision tel qu'a été mentionné ici, mais aussi, pour moi c'est ça qui est fondamental, la question du contrôle du cadre et du contenu du cadre, parce que c'est de ça dont je parle, par les habitants et les habitantes sur les décisions prises et également le contrôle sur leurs représentants et représentantes, c'est-à-dire sur leurs élus. Pour moi, c'est une question fondamentale et donc j'aimerais bien connaître votre avis là-dessus. Pour reprendre l'exemple des services publics, pour moi, une hypothèse de travail, c'est une hypothèse de travail, hein, je n'ai pas une solution à proposer particulièrement. Hein, ce serait une gestion des services publics par une institution de proximité, donc, qui prendra en compte les réels besoins des gens localement, c'est-à-dire ici, au Pays Basque Nord, qui prendrait par exemple en compte le déséquilibre côte et intérieur, tel qu'il existe en Corse, et ici également, ça a été mentionné, et qui répondrait réellement aux besoins de la population, qui serait le résultat d'un réel débat démocratique et qui ferait l'objet d'un contrôle permanent, si effectivement ces services publics sont gérés tels que la population le demande, s'ils sont bien ceux que la population demande, si on ne peut pas les étendre, c'est des questions qui sont régulièrement posées, étendre à d'autres secteurs, à d'autres domaines, tels que le logement, etc. Enfin, on est en train de les supprimer, moi je pense qu'il faut les augmenter, enfin, je ne suis pas la seule à penser ça d'ailleurs. Voilà, il me semble que ces questions sont incontournables quand on pose la revendication d'une collectivité territoriale, et même dans le cadre actuel, il me semble que c'est des questions auxquelles il faut répondre de manière urgente, parce que là, il ne s'agit pas des besoins des grandes métropoles, mais il s'agit bien des besoins des gens au quotidien, dans leur travail et dans leur vie quotidienne. Donc, j'aimerais bien connaître votre opinion sur ces réflexions plus que des questions.
Débat important, intéressant, de savoir aussi quel peut être aussi quasiment au quotidien le rôle des citoyens, des citoyennes et sur comment dirais-je qui peuvent à un moment donné aussi prendre en main avec les élus, avec leurs représentants des dossiers, des questions, et notamment peut-être qu'on peut revenir sur cette question notamment du transport aussi, savoir, voilà, c'est une question très concrète, et savoir finalement comment on peut répondre au mieux aux attentes, aux aspirations, aux besoins des gens. En plus, on en a parlé de développement durable, mais là, je crois qu'on est en plein dans la question aussi, mais c'est aussi une question de démocratie. Oui, service, peut-être.
Oui, alors, moi, je vois plusieurs choses un petit peu dans votre réflexion. Bon, là, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, hein, mais nous, c'est un petit peu notre objectif d'être proche des gens qui nous ont élus, qui ont voulu que l'on soit dans ces institutions et de continuer de travailler avec eux une fois passées les élections. Et donc, c'est vrai que je travaille personnellement en lien avec des associations et que, je veux dire, la relation entre ces associations et nous élus est très riche. Parce que ça nous permet à nous d'avancer, de savoir où on va, de savoir ce que l'on a à faire et de renvoyer un retour ensuite sur le terrain. Bon, ça c'est, là je parlais un petit peu pour la situation, le fonctionnement d'Europe Écologie. Ensuite, bon, je ne sais pas comment vous verriez ça, vous, un organisme qui serait... la société civile, un organisme qui serait composé de personnes de la société civile, volontaires, et qui évaluerait un petit peu le travail des élus, ou c'est ce que j'ai cru comprendre dans votre... Oui, bah, écoutez, moi, c'est quelque chose que je verrais de façon très positive. Mais pas seulement pour évaluer, faire un bilan du travail qu'on a fait, mais également qu'il soit un lien, si vous voulez, pour nous permettre à nous d'évoluer dans notre travail et d'aller vraiment vers ce que la population attend de nous. Voilà. Moi, c'est quelque chose à quoi je suis vraiment très réceptive et qui me semble être important et même essentiel. Bon, qu'après, en retour, il y ait également, si vous voulez, une évaluation, un jugement qui soit porté sur ce qu'on a fait, ça me paraît logique. Les gens le font à titre personnel, mais qu'ils puissent le faire au sein d'échanges comme ça, c'est bien. Mais par contre, nous, on est assez demandeurs, justement, de remonter de la part de la société civile sur les attentes. Parce que c'est vrai qu'on débat beaucoup au cours des campagnes électorales et qu'après, c'est chacun pour soi. Et moi, je suis très favorable à ce qu'il y ait des échanges entre élus et société civile, justement, pour qu'on aille dans le sens de ce que l'on attend de nous. Mais voilà, ça c'est une opinion personnelle.
Alors moi, Tristan, vous pouvez répondre rapidement. Rapidement si vous voulez, mais les points abordés par madame auraient des champs considérables. Moi au départ, j'étais un peu, enfin, en vous écoutant, je n'ai peut-être pas compris votre intervention parce que vous parliez de cette partie du social. Moi, je ne crois pas aujourd'hui que dans ce pays, il y ait une volonté de régionalisation de la gestion sociale, du cadre social. Je crois même bien le contraire. Je crois qu'il y a des forces extrêmement fortes, puissantes, qui n'accepteraient absolument pas les pistes que vous avez évoquées. Dans le champ du social, il y a une tradition française d'une sommité, de volonté, d'égalité très très forte dans le cadre territorial, de l'ensemble du cadre social de la nation. Je peux bien vous prendre ce que vous voulez dire, mais je pense que les grands syndicats français sont à l'opposition complète avec l'idée que l'on puisse comme cela adapter le cadre social à Bayonne et qu'il soit différent à Clermont-Ferrand. On serait en rupture complète avec la manière dont est construit le pays, avec des forces extrêmement puissantes, à droite, à gauche, politiques ou syndicales, extrêmement attachées. C'est comme ça, la protection sociale, la sécurité sociale, la législation sociale, et donc les relations sociales, elles sont, c'est vrai, construites dans un cadre étatique extrêmement fort, mais je crois aussi avec un attachement très fort dans l'ensemble des partenaires sociaux à ce cadre-là, enfin, en tous les cas, je crois. Après, vous avez, bien sûr, nous, Conseil général, on a des compétences sociales, on en a eu des transférées de manière très importante, mais il est vrai que le cadre est fixé par la loi votée par le Parlement. C'est ainsi. Cela dit, il y a des marges de manœuvre. tous les départements n'ont pas appliqué le RSA de la même manière. Tous les départements sur le logement n'ont pas mis en place une politique du logement de la même manière. Nous avons été très offensifs, par exemple, parce que nous avons décidé avec Jean-Jacques Lasserre, lorsqu'il était président, de prendre la délégation dite de l'aide à la pierre. Donc il y a des marges de manœuvre par rapport à un cadre national d'action qui sont, me semble-t-il, beaucoup plus fortes que vous n'imaginez, même si elles ne correspondent pas à ce que vous souhaitez. Quand vous prenez le secteur de transport, qui a été également évoqué dans votre intervention, d'abord, il y a des compétences fortes. Hein, l'agglomération, elle a largement compétence pour organiser le transport urbain. Le département a de larges compétences pour organiser le transport urbain. En revanche, vous voyez aujourd'hui que les organisations syndicales françaises seraient favorables, et moi je serais peut-être favorable, à la régionalisation du transport ferroviaire, comme ça existe en Euskadi. Vous pensez qu'aujourd'hui, le démantèlement de la SNCF en société régionale, ça serait possible dans le cadre français? Vous pensez que la CGT l'accepterait?
C'est une petite remarque. De toute façon, c'est des pistes, moi, de débat. Hein. Effectivement, c'est un débat très large. Je n'ai pas du tout l'intention de l'engager maintenant. Ça nous mènerait beaucoup trop loin. Je voudrais simplement faire une remarque sur deux mots que vous avez utilisés. Je pense qu'il y a eu quand même une grosse confusion entre l'uniformité et l'égalité. Il ne faut pas confondre l'uniformité, la loi la même pour tous, qui crée plus d'inégalités, d'ailleurs, qu'elle en est faite. Et l'égalité. Je crois qu'il y a une réflexion à mener à ce niveau-là. Est-ce que l'uniformité, c'est l'égalité? Pour moi, c'est autre chose. Donc, c'est le problème que je voulais soulever.
Je crois à la diversité, mais depuis Mirabeau, hein, c'est de Cordeau et à l'équerre. Et ça, depuis deux siècles, c'est dans la tête française, avec un attachement des Français.
Et donc, pour finir, simplement, je ne vais pas du tout poursuivre le débat, mais l'objectif du service public, c'est d'assurer l'égalité entre les gens et non pas l'uniformité. Donc, il y en a plus là où il y en a plus besoin, peut-être, oui, je ne sais pas, il faut réfléchir.